Donc, je vais présenter Dominique qui est fatigué, qui est éleveur. Ben, voilà. Vas-y, et dis-nous ce que tu fais.
Eh ben, moi, donc, je suis éleveur sur Saint-Agnan-en-Vercors, et exclusivement en grise, par choix, et puis parce que ça fait 20 ans qu'on travaille dessus, quand même. Donc, voilà, il n'y a pas Franck qui est notre accouveur et qui nous a bien poussé le projet Grise du Vercors. On a depuis 4 ans, 5 ans
4 ans,
oui. Ouais, 4 ans à peu près. Voilà, réussi à faire une grise du Vercors F1 de façon à avoir des poulets de table qui viennent un peu plus rapidement que la race pure, parce que la race pure était un petit peu capricieuse, comme toutes les races en fait, hein. On n'a pas voulu non plus perdre en qualité, parce que c'est une qualité de chair qui est superbe. Les restaurateurs ne se sont pas trompés, hein. Je crois que là, chaque éleveur a fourni des, comme Aymeric, que ce soit Romain, ils fournissent aussi des restaurants. Et en fait, c'est une qualité de chair exceptionnelle, qui est une viande qui est très persillée, qui a un goût proche du gibier. Persillé, ça, donc, ça veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas, que vous avez des filaments de graisse qui se mettent dans les tissus qui sont un peu plus secs. C'est pour ça qu'elle demande une cuisson à basse température pour que ces filaments fondent lentement et imbibent les tissus. Si vous la faites cuire trop vite, la graisse va tomber au fond du plat et ça va durcir le reste. Donc, c'est pas le but recherché. Voilà. Après, donc, on a ça. On fait un élevage à 120 jours. Entre 110 et 120 jours. On peut faire plus, hein. Mais bon, après, voilà, c'est pas non plus 120 jours. Ça nous paraissait correct. Par rapport à ce qui se fait en traditionnel. Moi, je suis en bio, donc. Mais en bio, par exemple, la norme, c'est 83 ou 84 jours pour un poulet, on va dire, standard, de type label rouge, ou voilà. Donc, on a quand même un peu plus de temps en élevage. C'est une volaille qui occupe bien de l'espace, du terrain. Il lui faut de l'herbe. C'est une brouteuse, mais vraiment, vraiment. Il faut vraiment de l'herbe, des buissons, quelque chose. Enfin, voilà, il faut toujours qu'elle cherche. C'est une volaille de race fermière, hein. Donc voilà, elle est quand même assez sauvage. Elle a un instinct qui est assez prononcé. C'est-à-dire que si jamais vous rentrez dans le poulailler comme ça, ben, ça saute, ça jette contre les murs. Donc il faut y aller tranquillement. Voilà. Mais sinon, elle est assez docile et très rustique. Elle supporte bien le climat. Moi, Saint-Agnan, cette année, on a eu 80 cm de neige. On n'a rien à foutre. C'est pas un problème. Elle ne craint pas le froid non plus. Moins 16, moins 20. C'est plus des contraintes pour nous à l'élevage que elle, franchement, elle s'en fout. C'est une poule qui recycle bien les déchets, hein, parce que bah, savoir qu'une poule recycle 180 kg de déchets par an, par poule. Donc tout ce qui est déchets de table, hein, je parle, hein, on va dire. Voilà. Donc c'est aussi intéressant. Et puis, sinon, elle n'est pas difficile à élever à partir du moment où on respecte les règles d'hygiène. Voilà. Donc comme toutes les. Et voilà, et vous allez avoir des problèmes de coccidiose, des choses comme ça. Mais ça, c'est normal. Après, avec un programme tout simple, avec du vinaigre, au départ, vous enlevez ça. Ça se voit dans les fientes, qui sont un petit peu sanguinolentes, parfois. Donc là, vous vous dites, bon, il y a un peu de coccidie, allez, on traite. Et c'est fini.
Au vinaigre.
Au vinaigre. Ça va très bien.
Vinaigre
de cidre, vinaigre blanc, ce que vous avez.
En dosage,
En dosage, moi je mets à peu près 2 ml par litre. Mais voilà, si vraiment il y a un souci, quoi.
Vinaigre dans l'eau?
Dans l'eau, direct. Moi, ce que je fais, c'est que je les assoiffe un petit peu au départ. Et je mets vinaigre, je mets la flotte, et après je leur donne. Comme ça, elles boivent. Je suis sûr qu'elles ont bu. Mais moi, je le fais déjà à pousser un jour. Allez, alors, je les laisse un peu tranquilles. Mais au bout de 5-6 jours, je commence. Juste, voilà, pendant 3-4 jours, elles ont du vinaigre. Au moins, je suis sûr de mon truc. Ça n'empêche pas que la coccidiose ne puisse pas revenir. Hein.
Vers 6 semaines, des fois.
Voilà, 6 semaines, il y a une période charnière. Voilà, ça arrive. Et puis, il y a des vermifugés. Ça, c'est important. Donc, les vermifuges, bon, bah, après, on en fait de partout. Mais en bio, moi, je travaille avec Vétopol, qui a des bons trucs, quoi. Hein.
Qui est situé sur Bourg-Péage, voilà. La sortie de Bourg-Péage.
C'est un super cabinet vétérinaire et ils ont des très très bons produits en phyto, quoi. Et ça va bien.
En fait, c'est le vétérinaire qui suit l'association aussi. Ouais. Alors, il y a Aymeric, alors tu vas te présenter aussi. Donc, c'est aussi un éleveur.
Oui, donc Aymeric Archier, je suis éleveur. Donc, moi, sur Roiffieux, Saint-Mut d'Annonay, voilà, dans le Nord-Ardèche. Bon, moi, je suis éleveur de pigeons de chair, c'est mon activité principale. Je fais de la poule pondeuse et je fais également du poulet en gris du Vercors. Et puis maintenant, ça va faire la quatrième année. Donc, je fais 2 à 3 lots par an. Je fais pas de la grosse quantité. Et l'intégralité de mes volailles partent dans les restaurants gastronomiques. Parce que si, par rapport aux pigeons, j'avais cette entrée-là. L'intégralité, allez, peut-être 10% pour les particuliers, tout le reste, c'est dans les restaurants gastronomiques. Et donc, les retours que j'ai d'ailleurs des restaurants, c'est un très beau retour. Hein. La preuve, c'est déjà ma 4e année. Et je pense que je peux faire 5-6 lots par an, ça ne serait pas surprenant.
Oui, oui, moi, c'est, voilà. Ouais, c'est ça. Moi, bon, en particulier sur les marchés, mais aussi donc, au magasin de l'écancière à Nochamp, un magasin de producteurs, donc en bio, et sur les restaurateurs. Et c'est vrai que les restaurateurs, alors que ce soit de la poule, parce que la poule, après, on la recycle, hein. C'est-à-dire que moi, je les garde pour la ponte, et en fin de ponte, on les prend, on les amène à l'abattoir, et on les fait soit en poule au pot, ou soit comme avait le croquant aujourd'hui, là, donc le food truck, il a fait un effiloché, et il a fait des pains garnis, à ce qu'on appelle le gyros, avec de la poule. Et franchement, c'était à tomber. Ça reste tendre. Évidemment que la viande est persillée, elle reste tendre, elle n'est pas dure comme une vieille poule qu'on va pouvoir voir sur une poule rousse, quoi. Voilà, c'est immangeable, à mon sens.
Voilà. Alors, ce qu'on peut dire, c'est vrai que jusqu'à présent, au départ, donc on avait fait la race pure, et puis ça restait un petit peu amateur, et des professionnels s'intéressaient à nous, mais ils n'y trouvaient pas leur compte. D'où notre travail pendant plusieurs années pour arriver à fournir un poulet et une poule qui soient rentables, entre guillemets, pour les professionnels. Oui, parce que c'était quand même l'objectif.
Une race à deux fins, comme on dit.
Voilà. Donc c'est pour ça, en fait, c'est pour ça qu'on a fait un croisement. Les poulettes que vous avez là sur le marché, ce sont des poules qui sont croisées. On appelle ça FO, mais elles ne sont pas pure race. Par contre, l'association a des bénévoles chez qui se trouvent des familles de poules en race pure, puisqu'on est obligé de garder un certain nombre de souches pour pouvoir diversifier ensuite. Et chaque année, on fait reproduire pour garder toute notre diversité au niveau des souches. Mais donc, l'association, en fait, elle a deux pôles, hein, la sauvegarde et... rendre un petit peu l'objectif de l'association, c'était de rendre cette poule aux éleveurs.
Aux agriculteurs.
Aux agriculteurs. Et c'est pour ça que maintenant, on peut dire qu'on a gagné. Et on a tellement gagné qu'il nous manque maintenant des éleveurs.
Voilà. Oui, parce qu'on a beaucoup de demandes, en fait. On ne peut pas fournir tout le monde. Et pourtant, voilà, ce soit Emeric, que ce soit la ferme des Blaches, que ce soit moi, au bout d'un moment, il faut fournir, quoi. Et c'est pas toujours facile, hein.
Et puis, au-delà de ça, je dirais, pour ajouter, on veut rester sur de la qualité.
Oui, c'est ça.
L'idée, c'est pas de faire du volume, c'est pas d'enchaîner des lots trop serrés. Oui. Tout respecter la chaîne, tout ça, la réglementaire, quoi. Donc, but, c'est peut-être, en effet, d'avoir, du coup, d'autres.
Voilà. Il y a une autre éleveuse qui se plante en bio dans l'Isère.
Magali,
voilà. Il commence un petit peu, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'était tout seul. Ouais. Donc ça manque un peu aussi. Ouais. Et puis il faudrait d'autres éleveurs aussi en tradi, parce que de toute façon, voilà, c'est pas la même clientèle, on va dire. Hein. Il y en a qui sont inconditionnels du bio, il y en a qui sont inconditionnels du tradi. Bon, très bien. Mais il faut que tout le monde ait, faut qu'il y ait suffisamment d'éleveurs dans les deux pôles pour qu'on puisse avoir quand même quelque chose d'uniforme, quoi.
Alors là, on est en train de mettre en place le cahier des charges. Alors nous, l'idée, c'est le bien-être animal. Comparé à l'élevage industriel, on veut vraiment se différencier. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie des petits poulaillers. On n'aura jamais 10 000 poules ou 100 000 poules. Des petits poulaillers, on les laisse grandir tranquillement. On ne va pas les tuer à 50 jours, parce qu'il y a des poulets qui sont tués à 50 jours. On les laisse grandir tranquillement. Et on sécurise aussi l'éleveur, puisqu'on sait qu'il y aura de la demande et qu'il vendra sa marchandise, enfin, ses poulets sans aucun problème. Le fait d'être en association aussi, et là, petit à petit, on va y arriver, c'est de créer un groupement d'éleveurs pour que les éleveurs entre eux s'entraident, puisque quand on a un parquet, on va vider son parquet, mais après, le temps d'en élever d'autres, eh bien, ça sera un autre éleveur qui prendra la suite. Donc, c'est vraiment travailler tous ensemble pour pouvoir répondre à la demande, puisqu'on a quand même des demandes qui sont très importantes. Voilà. On a peut-être assez parlé, si vous voulez nous poser des questions. Madame qui souhaite peut-être s'installer, quelles étaient vos interrogations, votre...
Bah, déjà, savoir, c'est bon, elle n'est pas compliquée à arriver.
Non, elle n'est pas compliquée, elle est exigeante. Ah, c'est une poule, hein. Exigeante dans le sens où...
C'est en fonte, là, du coup, la demande. C'est pour de la poule de ponte.
En général, je pense.
Ouais. Ah, mais en général,
oui. Ouais.
D'accord.
Comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez les bons soins au bon moment, il n'y a rien de compliqué en soi. Hein.
Il faut avoir quand même beaucoup de pas. Sur ta cervée, comme vous dites.
C'est une brouteuse, ouais. Donc, c'est vrai que nous, en bio, c'est 4 mètres carrés par poule. Voilà. C'est juste.
Oui.
C'est juste. S'il y en a plus, c'est pas très grave.
Ouais, l'idéal, c'est d'avoir plus, quoi, c'est sûr.
Voilà, ou faire des rotations.
Oui, alors.
Donc, moi, je fais ça avec les filets. C'est pas toujours facile, mais bon, moi, en fait, c'est tout clôturé sur 6000 mètres carrés et je fais des rotations avec mes filets. Donc, je leur laisse moins que ce qu'elles ont besoin, entre guillemets, mais pendant moins longtemps, et du coup, après, je les repasse. Donc, ça repousse, et voilà. Après, s'il y a trop de bêtes tout le temps, il faut pas hésiter à mettre de la chaux sur le terrain. Voilà, pour désinfecter et laisser repartir l'herbe. Voilà.
Il y a beaucoup de débouchés.
Les débouchés sont là. Hein,
Après, moi, je suis c'est un... dans l'Ardèche, oui. Bon, en tout cas, moi, en Ardèche,
j'ai du débouché aussi.
Voilà, j'ai un gros débouché. Alors moi, c'est encore une fois, c'est peut-être un peu particulier parce que c'est principalement dans les restaurants.
Ouais.
Mais ça n'empêche pas qu'à mon avis.
Non, mais les restaurateurs sont demandeurs.
Ils sont demandeurs parce que si vous voulez, ils savent que c'est pas bon. En tous les cas, les retourgés, ils ont vu tout de suite la différence.
Après, si on veut parler économiquement, il vaut mieux en avoir peu et que ça se vende à un prix correct, parce que là aussi, c'est pareil. Hein, on est quand même sur une volaille qui est haut de gamme. On va pas se mentir, hein, au niveau de gustatif. Donc, il faut pas la brader non plus. C'est pas un poulet que vous allez trouver à 10 balles le kilo, hein. Voilà. Moi, en bio, personnellement, aujourd'hui, je suis à 19 euros du kilo. Donc, c'est un budget, hein. Parce que le poulet fait 2,5 kg. Vous voyez, vous faites la multiplication. Voilà. C'est vite fait. En traditionnel, je sais pas à combien tu es.
Ouais, moi, je suis à 16 euros.
Voilà, 16 euros. Donc, ça veut quand même dire quelque chose. Ça veut dire que, c'est une volaille, il vaut mieux en avoir un peu moins, mais vendre bien correctement son lot. C'est dans ce but-là aussi que l'association prône le truc, parce que sinon, ça n'a pas de sens.
Et l'association, donc pour des futurs éleveurs, on essaye vraiment d'aider à l'installation. Donc, on a créé un partenariat avec une entreprise qui fabrique des poulaillers. Oui. Donc, c'est la SOCMA qui est à côté de Valence.
Voilà.
Et donc, pour des jeunes, des nouveaux, même des anciens, ouais, qui souhaitent acheter des anciens éleveurs, je veux dire.
Oui, j'ai pas compris.
ils nous font 10%. 10% sur le prix d'un poulailler, c'est quand même intéressant. Sachant que on prône pas des grands poulaillers. Ils sont combien les tiens?
Moi, j'ai la poussinière, elle fait 20 mètres carrés, ouais. Et par rapport au nombre que je fais. Et après, c'est un 30 mètres carrés.
Ouais, ouais. Moi, 30, 40 mètres carrés. Ouais, ouais, c'est bien. On va pas aller sur des grandes dimensions.
Ça sert pas à grand chose. On va bien avoir 2-30 mètres carrés.
Voilà. Ouais. En plus, vous pouvez faire des rotations, du coup, faire.
Voilà, c'est ça.
Avec combien? Ça fait 10.
Ben, 30 mètres carrés. Alors, sur du bio, c'est 10 au mètre carré en poulet. Et, pour de la poule, c'est 6 poules au mètre carré.
6 poules au mètre carré.
Oui, mais extérieur.
Non, dedans. C'est-à-dire, sur un 30 mètres carrés, on peut mettre 180 poules. En ponte, par exemple.
En bio, c'est ça?
En bio.
Ouais.
En bio.
Toi, tu aimes
pas. 250 en conventionnel. En poule. Alors, moi, c'est à 50 mètres carrés. C'est à 60 mètres carrés. Le mien, oui. Mais la réglementation, je pense qu'on peut monter à 250 pour un 30 mètres carrés. Il faut les vérifier.
En plus? Oui.
Je pense, 30 mètres carrés.
Ouais. Ah, oui, tu dois. Oui, 250. Ouais. Oui,
100,
oui.
Moi, 60 mètres carrés, je peux en mettre 500. Donc, ouais, calcul, ouais, c'est ça.
Ouais,
c'est ça. Donc, un peu plus.
Ouais, c'est ça.
Après, en ponte, on a vérifié, parce que c'est...
Ah ben, en ponte, c'est encore autre chose.
Et voilà, il y a aussi la règle des 249 pondeuses.
Ouais.
Voilà, pour la vente directe. Si vous passez au-dessus, il faut calibrer, il faut mirer, vous serez contrôlé en salmonelle, il y a tout un...
Il faut une salle d'emballage.
Et une salle d'emballage.
Ça coûte très cher.
Tout à fait.
Voilà.
Donc, on a tout intérêt à avoir des petits lots et d'en avoir plusieurs. Quoi. Voilà.
Il ne faut pas perdre de vue, en fait, que c'est quand même un complément de revenu. En activité principale brute, il faut quand même faire de la masse. Vous n'aurez pas le choix. Donc, mais après, ça veut dire que c'est tout à fait possible en restant correct au niveau des volumes. Hein. Mais ça veut dire qu'il faut quand même en faire un peu, quoi. C'est pas avec 250 poules à la pompe qu'on va vivre. Ah, ce serait illusoire de vous dire ça. Hein. Moi, j'ai 250 poules, c'est un choix. C'est parce que je veux pas faire de salle d'emballage et que j'ai ma vente directe et que j'ai mes clients et que je fais le tour à la semaine, je fais le tour de tous mes œufs, quoi. Il n'y a pas de problème. Et en plus, donc, je fais les poulets à côté. Mais déjà, avec la DDPP, on se chamaille un peu parce que... ils sont pas très tendres, mais bon, après, ils sont compréhensibles. Et en fait, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à les contacter, parce que ils sont aussi là pour servir les éleveurs, même si c'est pour protéger la population, on est d'accord, ce qui est normal, mais c'est aussi pour les éleveurs. Ils disent, mais non, faites pas ça comme ça, parce que là, vous allez droit dans le mur, faites ça comme ça, comme ça, comme ça. Et ils aiment vraiment qu'on les appelle pour avoir des questions. Au moins, vous êtes sûr d'être dans les clous, quoi. Après, c'est pas une pondeuse de folie, hein, on est d'accord. Elle fait 230, 220, 249, on va dire, par an.
Mais l'intérêt, c'est qu'on peut valoriser la poule après.
Oui.
Parce que manger une poule rouge, vous voyez le goût qu'elle a.
Ah, rien à bouffer.
Rien à manger.
J'aime bien prendre les poules, mais madame ne veut pas les tuer, ne veut pas les manger.
Eh ben oui.
Ah, bah oui.
La poule, c'est la boue, il ne faut pas la manger.
Alors, il faut dire qu'elle a disparu.
On en prend deux et après, on se trouve avec un énorme compte.
Tu le mets un chien, je laisse les poules de côté.
Mais c'est vrai que ceux qui élèvent, donc qui ramassent les œufs, ils peuvent d'abord la garder pendant 2 ans, parce qu'elle fait des...
18 mois de ponte.
18 mois de ponte.
Donc 2 ans d'âge.
2 ans d'âge, donc c'est déjà bien, parce qu'elle fait 2 cycles, du coup.
Oui.
Donc on a, parce que les poules rouges, hein, à la fin de...
Un cycle.
À 9 mois, on les enlève. Hein. Enfin, voilà.
Oui, parce qu'après, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous les gardez plus de 10-12 mois de ponte, elle va continuer à pondre, mais en fait, elle va s'affaiblir. Hein, c'est ce qui est normal, hein, parce que son cycle est terminé. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est leur faire faire ce qu'on appelle une mue. C'est-à-dire que vous leur donnez à manger juste pour vivre. C'est-à-dire que la ration d'une grise, grosso modo, c'est 160 grammes journaliers. Alors, on ne peut pas dire qu'elle mange moins, ça serait vous mentir. Elle mange beaucoup plus.
C'est 120, une poule rousse.
Voilà, c'est 135, oui. Voilà. 135, 120, 135, voilà. Et du coup, elle mange 160 grammes quand même. Hein. C'est, voilà.
Ah ouais, c'est
ah ouais, la carcasse.
Bah, on voit la différence.
Voilà. Et donc, du coup, vous diminuez sa ration journalière quand vous lui faites faire une mue. Donc, vous la passez à 100 grammes. Et vous coupez toute lumière intérieure. C'est-à-dire que quand on élève des pondeuses, on a de la lumière artificielle. Parce qu'il faut savoir qu'une poule, il lui faut 16 heures de lumière par jour pour pondre. De 16 à 18 heures. Voilà, selon les éleveurs. Hein. Après, c'est un choix personnel. Vous ne voulez pas en mettre, vous n'en mettez pas. Enfin, voilà. Là, on est en jour croissant, donc bon, c'est fini, c'est bon. Ouais. Mais en période hivernale, si vous voulez avoir des œufs, il n'y a pas de secret, il leur faut de la lumière. Voilà. Et là, c'est pareil, quand vous allez chercher des programmes lumineux qui sont à faire, il ne faut pas mettre n'importe quoi. Il faut bien vous renseigner. Parce que la poule, elle n'a pas la même façon de voir que nous. Hein. Donc, du coup, elle ne supporte pas le scintillement, par exemple. Les néons, ce n'est pas bon. Ou alors, il faut que ce soit des néons LED qui ne scintillent pas. Voilà. Il y a tout un tas de choses à connaître. On fait pas ça comme ça, hein. Quand même bien se renseigner.
Et moi, je parlais du bien-être.
Nourriture. Nourriture, après, bon, il y a pas mal de marchands d'aliments, hein. C'est pas un souci. Le poussin jusqu'à 1 mois, c'est de la semoulette traditionnelle, on va dire, poussin d'un jour, on appelle ça. Et après, vous passez ce qu'on appelle le croissance. Et ça, par contre, le croissance, faut bien le respecter. Il faut bien la respecter jusqu'à... Parce que la poule, elle a un gros squelette. Elle est assez haute quand même, hein, et elle est assez charpentée. Donc, si vous ne lui mettez pas suffisamment, elle va patiner. Et donc, elle ne pondra pas.
Non, non, non.
Voilà.
Il paraît que le blé n'est pas bon.
Pourquoi le blé, c'est pas bon? Bien sûr que c'est bon, le blé.
Pourquoi? Je ne sais pas. Il paraît que c'est pas bon, le blé.
Mais bien sûr que c'est... Bah, peut-être ceux qui font maintenant, il n'est pas bon. Moi, j'ai que des variétés de blé. Enfin, quand j'en prends, je prends du blé ancien. Et ça va très bien. Hein. Et
non,
puis, elle le mange bien. Hein.
Non, mais elle mange.
Ah oui. Si, c'est bon pour la ponte.
Si, c'est bon pour la ponte.
Bien sûr que c'est bon pour la ponte. Les anciens, ils faisaient comment?
C'est du blé entier ou du blé cassé?
Du blé cassé.
Après, il y a plein
d'autres. Entier, quand elles sont adultes, hein.
Ouais, qu'elles soient. Voilà. Après, il y a plein de possibilités sur l'alimentation. Moi, je vois, par exemple, dans mon granulé, parce que bon, après, il y a plein de choix aussi sur l'alimentation.
Ah oui.
Moi, j'ai pris des semi-granulés. Ouais. Je travaille avec un fournisseur qui permet à chaque éleveur de choisir sa recette. Ça tombe bien, c'est ce que je voulais. Et du coup, j'ai rajouté, moi, plus de maïs. Pourquoi? Parce que le jaune, il est bien jaune. C'est gourmand, c'est un jaune gourmand. Mais après, ça, c'est des choix.
Ouais.
Par contre, ça me coûte un peu plus cher.
Ouais.
Mais bah, moi, je préfère faire de la qualité. Mais chaque éleveur fonctionne différemment. Encore une fois,
moi, le maïs, elle le mange pas. L'orge, elle le mange pas.
Mais il faut pas qu'il soit
cassé. Alors, le maïs, il faut qu'il soit cassé.
Le maïs, il faut que ça. Oui.
Et l'orge?
Ben, l'orge, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est réel.
Chez moi, elle le mange pas, mais chez le voisin à côté, elle le mange.
Ah bon?
Chez mon frère à côté, elle le mange.
Mais les meilleurs?
Mais moi, elle le mange pas.
J'en sais rien, moi.
Et
bon, ton frère, il mélange.
Oui.
Le blé, le maïs.
Voilà, de l'avoine, vous pouvez mettre.
Non, de l'orge, puis de son granulé.
Oui, mais mélanger, moi, je suis pas d'accord.
Il y a pas besoin de terminer, après le ce qui reste.
Oui, bien sûr.
Donc, il y a deux tours, en fait. Oui. Et toi, tu donnes d'abord ton blé et le granulé le soir.
Oui. Ah oui, elles attendent le granulé, elles sont pas folles.
Elles mangent que de.
Ah ben, elles vont trier. Bien sûr.
Et après, elles mangent pas.
Mais elles sont gourmandes.
Après, elles mangent pas.
Si, oui, mais elles sont gourmandes. Elles y voient clair, hein, ça me sort pas de grain. Hein. Ah, bah oui, hein. Ah, oui, oui, oui.
Il n'y a pas d'odeur là.
Ah, bah si, il peut y avoir des odeurs, mais en fait, c'est surtout la vue, elles savent très bien. Vous vous rendez compte, c'est une vue extraordinaire, une poule. Hein.
Et ça a aussi un odorat extraordinaire.
Oui, oui, oui.
Je peux vous raconter une anecdote.
Sur les céréales traitées.
Donc, moi, je fais couver mes œufs en couveuse parce que c'est plus pratique, en couveuse artificielle. Mais ensuite, moi, j'aime bien les faire adopter par des poules, parce que c'est plus facile. Après, on s'occupe pas, c'est elles qui lui apprennent à manger, etc. Eh bien, la poule, elle va reconnaître, et certaines poules n'acceptent pas les poussins, parce qu'ils ont une odeur spécifique de couveuse. Donc, c'est une grand-mère qui m'avait dit qu'il fallait prendre un herbe qui sentait très fort, comme du thym, etc., se badigeonner les mains avec cette odeur-là, bien caresser la poule pour qu'elle soit bien imprégnée de cette odeur, bien imprégner les poussins, et ça pas marche. De problème, elle a senti, c'est la même odeur qu'elle, elle va les adopter. Donc, on parle d'une poule qui est bête. Moi, je peux vous dire que certaines poules...
Elles ont un instinct, de toute façon.
Oui.
Ah, c'est un instinct animal, hein. Bon, après, c'est des choses qu'on oublie, mais c'est ce qu'on avait nous aussi, hein. C'est tout, hein.
Quand on achète des poulettes, vous les mettre avec les vieilles.
Alors,
on les met avec les tac 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 tac.
Normal.
C'est normal.
Il faut faire quoi?
Eh ben,
vous habituez.
Déjà, quand vous avez des jeunes poulettes, vous les isolez dans le poulailler. Que les mêmes autres, à la limite, et vous les mettez dans un coin.
Par contre, il faut qu'elles se voient.
Oui, il faut qu'elles se voient. Mais par contre, il faut les mettre la nuit. Oui, parce que le matin au réveil, toc. Bizarre, non. C'est pas le même choc que si vous les balancez, si vous les jetez dedans. L'autre, elle est perdue, les autres, elles le savent, ils disent, attends, on va faire ta fête.
C'est
ça reste une poule, c'est hyper embrouillant. C'est pareil chez les hommes. C'est exactement la même chose.
Moi, je conseille même que lorsqu'il y a des jeunes, de les mettre derrière un grillage, mais qu'elles voient les autres.
Il faut qu'elles se voient.
Elles apprennent à se connaître, et ensuite, on peut ouvrir, et là, il n'y a pas de souci. Alors que si on les met d'entrée, et surtout ne jamais prendre qu'une poule. C'est une bêtise de prendre une poule. D'abord parce que ce sont des animaux qui sont...
Ils ont une hiérarchie.
Qui ont l'habitude d'être en groupe.
Et oui, c'est grégaire.
Donc il faut minimum 2, 3, 4, enfin pour un élevage amateur. Après, c'est différent.
Alors nous, on a un problème. Parce que le renard est passé, et il nous en a laissé une.
Eh bien, il faut en prendre une autre.
Et oui, alors maintenant, alors elle a mis du temps à ressortir du poulailler. Normal. Déjà, elle est restée au fond du poulailler. Elle avait vraiment très peur.
Ouais.
Et maintenant, elle est ressortie et elle vit pratiquement avec nous. La famille, quoi. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut qu'on reprenne comme poule.
N'importe. C'est pas une question de race après. Hein.
Oui, c'est une.
Est-ce que la grise est sociable? Elle a mélangé.
Elle a du caractère, mais elle se mélange.
Elle
a du caractère. Elle sera respectée, de toute façon.
Non, mais le mieux pour vous, c'est prenez des renards.
On lui en a donné, je ne sais plus combien, hein, on lui en a donné beaucoup déjà. Et parce qu'on a le portillon
automatique.
Ouais, ouais. Avec, mais il y a eu, je sais pas, on est à Autran.
Ouais.
Donc il y a eu de la neige. Ah. Le portillon,
la pluie était restée dehors. Et voilà.
Vous voyez, je ne sais pas comment celle-là, elle a échappé au.
Bah, elle était rentrée avant.
On avait... Et vous avez... Et vous n'avez pas des coques, hein?
Des coques? Bah, dans les poulets, il y a toujours des coques, oui, mais...
oui, je veux dire, dans votre cheptel.
Si, dans mon cheptel, j'en mets toujours quelques-uns.
Ça, voilà, on mettait des coques.
En fait, c'est juste pour protéger.
Protéger.
Oui, parce que le coq, il protège sa basse-cour. Hein.
Oui.
Donc, dans mon troupeau de pourneux, j'ai toujours un ou deux coques. Déjà, parce que quand c'est lui qui donne l'alerte, s'il y a l'autour des palombes, par exemple.
Ah, oui,
parce que l'autour des palombes, c'est un killer.
On
remplace le patron, ou pas?
Hein?
Le coq qui remplace le patou. Oui.
Voilà. Mais j'ai un chien aussi. Ah. J'ai un petit berger des Pyrénées qui fait le job. Hein, donc voilà. Mais ça n'empêche que le tour, il m'en saccage quand même quelques-unes. Hein. Ah oui, c'est la femelle hein, qui cherche chez le tour. Et c'est une tueuse. Hein.
Ah, oui.
Elle est capable de rester la moitié de la journée perchée à attendre. Et dès qu'il y a une poule. Parce qu'au bout d'un moment, ça donne l'alerte. Ah, puis la poule dit bon, allez, c'est bon, c'est passé, il n'y a plus rien. Elle sort. Tac, 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 et l'autre, boum! Et alors, à une vitesse.
Oui.
Et c'est phénoménal. Hein.
Pareil, oui.
Et pourtant, c'est plus petit. Hein. Les poules, elles font 4 kilos, moi, les poules. Là, ça fait rien. Donc, ils sautent dessus comme ça, et vas-y, qu'ils la bouffent vivante. Hein. Je dis, ah oui, oui. Elle arrache les filets, là. C'est gore, hein.
Mais bon, se prémunir, je ne sais pas ce que toi tu as mis contre les.
C'est pas énorme. Moi j'ai un peu de chance, j'ai pas mal de corbeaux en tant
qu'exploitation
et ça marche par territoire.
Ouais.
Donc pour l'instant j'ai de la chance.
Ouais.
Voilà. Alors ça n'empêche pas que j'ai des horreurs, j'ai d'autres choses. Mais,
ouais.
Mais sur les prédateurs aériens, je suis assez épargné.
Ouais. Alors moi j'ai l'aigle, les buses, l'autour des palombes. La fouine, la belette, la martre, le renard, le blaireau,
tout ce qu'il faut.
C'est pas mal.
Il y a du monde, hein.
Oui.
Mais bon, après, voilà, c'est le jeu aussi, hein. De toute façon, on peut pas faire 100%.
Non.
Moi, je préfère qu'il y ait une attaque de. Le renard qui va venir, qui va vous en tuer 100.
C'est surtout le soir, il faut vraiment les fermer dans le bâtiment. Ça, c'est obligé
pas. Moi, c'est pour ça qu'il y a le chien. Surtout le chien, il est là pour ça, quoi. Il y a l'odeur du chien, il y a l'électricité tout le tour, il y a un grillage de 1m80. Donc voilà, il faut aussi
protéger.
Ouais, mais bon.
Oui. Moi, je pense qu'il faut.
Pas les terriers sont juste derrière.
Il y a la nature, hein, il y a les animaux. Voilà. Il faut faire nous. C'est à nous de faire en sorte de protéger nos animaux, parce que le renard, par exemple, il va aller au plus simple, au plus facile, surtout quand il a des petits. Mais si on protège convenablement, on peut y arriver et il n'y a pas de problème. Donc je veux dire. Au lieu de tuer les renards ils ont leur place aussi.
Ah, mais ça sert à rien.
Non, l'idée, c'est de contourner,
Oui, voilà.
Il vaut mieux en avoir, en fait.
Oui.
Il vaut mieux avoir une population de renards pas loin de chez vous et de protéger correctement, plutôt que d'enlever un renard, où ça va être un autre qui va venir, qui aura d'autres vices, d'autres malices, à lesquelles vous n'êtes pas habitué, et qui va faire un carnage. Ça, c'est. Ouais, les terriers de renard, ils sont à 200 mètres derrière les enclos. Il y a des terriers, il y a tac, 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 il y a des familles de renards partout. Du bois, pas terrible, tu vois. J'ai la tête, j'ai pas d'attaque de renard. Après, voilà, je mets le chien, bah, c'est pareil. Hein. Moi, le chien, il fait tout le tour des 6000 mètres carrés. Donc, il a un circuit, quoi. Donc, dès qu'il y a quelque chose, il y va, enfin, il jappe. Donc, je sais que, voilà, il protège. Mais ça n'empêche pas que je ferme aussi tous les soirs.
L'électricité, ça empêche le renard.
Il n'aime pas, Ça, le jus, il n'aime pas.
Et les autres, les fouines aussi.
La fouine, elle n'aime pas, mais c'est beaucoup plus difficile parce que la fouine, elle grimpe.
Elle est souple.
J'ai jamais fermé. Moi, j'ai toujours laissé ouvert. Le fil électrique, j'ai jamais été embêté.
Ouais.
Tant que le fil marche,
Oui, c'est ça, il faut faire attention, mais il
faut s'en occuper.
Ouais, faut en occuper.
Il y a un seul fil à hauteur.
Non, il y a un
oui. Ah oui, le bureau, oui.
Parce que je n'enterrais pas la grille.
Mais allez, il va les saigner, et puis après, il va s'endormir dans le
foyer parce qu'il grimpe. Ouais. Et j'en mettais un au mieux, au cas où.
Pour l'arrêter.
De toute façon, les animaux, ils réfléchissent. Mais
si le bureau passe, c'est-à-dire que le renard passe.
Ils ne pensent pas qu'il y a un fil avec l'électricité, ils ne pas de le contourner. Ils vont mettre le nez dessus, ils vont prendre une vue et repartir.
Oui, parce qu'en fait, ils ont la truffe humide. Donc, ils sentent l'électricité avant d'avoir pris.
Puis même, je veux dire, ils essaient pas de. C'est pas comme nous, quoi. Ils ont pas l'intelligence de dire il y a un fil, ça doit être
électrique. Eh bien, c'est pas ça, c'est qu'ils ont. Si, justement, ils sont intelligents. Oui, ils se disent là, il y a trop de risques.
Mais même, ils vont pas essayer de le contourner en disant si je saute un peu plus, je passe en dessous le fil, quoi. Ils savent pas.
Le renard, il saute, hein.
Oui, il saute, mais je veux dire, il va pas éviter le fil.
Ah non.
Le fil, pour lui, c'est comme.
Ah, mais il le sait, voilà. Si là, il y a trop de risques, c'est pas assez facile. En fait, il va aller au plus facile.
Toujours.
Même donc, malin comme il est, le renard, le fil, ça l'arrête.
Ah oui,
Ah oui, c'est pas une question d'être malin ou pas, en fait, il le sait. Lui, il sait qu'il y a le jus dedans, donc il dit bon, c'est trop difficile, je vais voir ailleurs. Il a un territoire, de toute façon. Donc ça marche pas chez moi, ça marche chez le voisin. Voilà, mais c'est ça, hein. Et c'est là où je dis, finalement, il est pas si con que ça, quoi.
Parce que. Il va chercher au plus simple.
Il va chercher au plus simple. Alors après, ce qu'il faut savoir.
Si on a un voisin qui est.
Qui a moins de sécurité,
C'est bon,
c'est bon pour lui. C'est pas bon pour lui, c'est bon pour vous. Il faut pas hésiter. Hein. L'électricité, ça marche très bien.
Ça marche très bien.
Ça marche très très bien. Après, voilà, on n'est jamais à l'abri d'un renard un peu plus ambitieux qu'un autre, qui a beaucoup plus faim qu'un autre et qui va prendre vraiment tous les risques. Surtout en ce moment, que les femelles ont des petits et là, elles prennent vraiment tous les risques, c'est-à-dire qu'elles attaquent en pleine journée. Ah oui, oui.
C'est oui, le soir ou le matin? Le matin, pas
le matin, la maraude, mais la maraude du renard, c'est 2-3 heures du matin.
Oui, voilà. Il rôde dès que la nuit tombe.
Voilà, c'est ça. Mais là, les femelles, là, c'est en pleine journée.
C'est pour ça, les gens disent,
moi, je laisse de l'herbe haute comme ça le long de mon poulailler. Parce que le renard est capable de se tapir dans sa herbe, d'attendre. Vous ne le voyez pas, hein. Mais vraiment, vous ne le voyez pas. Hein. Et il dit, c'est calme, tout le monde est à la gamelle, lui aussi. Ah, maître Goupil, il est. Il faut bien rentrer ce schéma dans la tête, en fait, hein, parce que c'est quand même un prédateur redoutable. Hein. Il est très très malin. Et les Anglais ne sont pas arrivés à l'éliminer, hein, pourtant, quand il y a eu l'invasion des renards, il y en avait de partout. Ils ont fait des chasses royales phénoménales en Angleterre pour exterminer le renard. Ça y est, il n'y en a plus. Le renard était moins con qu'eux, il est rentré dans les villes. C'est pour ça que vous avez du renard en plein milieu de Londres. Ouais. Parce qu'il est devenu citadin. Il s'est dit, ben nous, en ville, on ne peut pas nous tirer dessus. Nickel. Mais salut les gars.
Protégé.
Non mais, dire, il faut quand même avoir la capacité de s'adapter. Et il a cette capacité-là. Il a cette capacité-là. Et nous, alors je ne sais pas si c'est par orgueil ou pas qu'on se sent supérieur, en tant qu'humain, mais on se fait avoir. Hein. Facilement, hein. Facilement. Mais lui, il a quand même un instinct de survie qui est très prononcé.
Je vais revenir un petit peu. donc, l'association, en fait, qu'est-ce qu'on recherche actuellement? On recherche des éleveurs. Alors, soit des éleveurs qui veulent fonctionner en circuit court, comme vous deux, qui avez votre propre clientèle, etc. Soit des éleveurs qui n'auraient pas envie de faire tous les métiers, parce que être éleveur, hein,
c'est astreignant
parce qu'il y a tous les métiers, hein, et commercial,
oui.
Éleveur,
comptable,
etc. Donc, il y a des éleveurs qui n'ont pas envie vraiment de se casser trop la tête. Et donc, dans ces cas-là, nous, ce que l'association propose, c'est s'ils acceptent d'élever donc des grises du Vercors, on a un abattoir, donc alors toi tu as un abattoir qui est chez toi, je pense.
Oui.
Dominique par exemple n'a pas d'abattoir parce que c'est encore des investissements à faire, etc. Puis c'est encore un autre métier, tu es.
Oui.
Donc on a un abattoir qui est agréé, qui est la ferme des Blas Chacrés. Donc quelqu'un qui voudrait s'installer, prendre un ou deux ou trois poulaillers, il a la possibilité de faire abattre ses volailles donc à Cré, c'est agréé. Il a la possibilité, en rentrant dans l'association, en se mettant d'accord entre plusieurs éleveurs, de pouvoir fournir régulièrement, parce que demandent les grands restaurateurs et que demandent Bocuse, enfin la Halle Bocuse à Lyon, enfin ils nous sollicitent, mais ils veulent de la régularité, c'est-à-dire ils veulent que chaque mois on puisse leur dire, eh ben nous on vous fournit 300 poulets par mois ou 200 poulets par mois, mais pour cela un seul éleveur ne peut pas. S'il y a 3 ou 4 éleveurs, l'association permet qu'ils se mettent, d'accord, qui s'entraident,
l'un ou l'autre,
et de façon à pouvoir fournir de façon régulière. Madame Pic, le restaurant Pic, oui, donc à goûter, on veut, mais là, qu'est-ce qu'elle demande? C'est qu'on lui en fournisse tant par semaine. Si on en fournit pendant un mois et puis qu'après, il y a un trou de 2 mois, ça ne va pas l'intéresser. Donc c'est pour ça qu'en fait, on cherche des nouveaux éleveurs qui auraient la volonté soit en diversification, soit alors on a une personne, la Magali, qui elle ne va travailler qu'avec de la graisse du Vercors, par exemple, mais ça peut être en diversification. Toi, tu as des pigeons, toi, tu as des poules et des poulets, voilà, mais toi, tu es juste en graisse du Vercors. Donc, il y a vraiment des possibilités pour des éleveurs un petit peu de s'installer, voilà.
Après, il y a des restos qui jouent aussi le jeu. C'est-à-dire que moi, sur certains restaurants, on arrive donc, je ne sais pas comment ils fonctionnent, mais ils le mettent à la carte pendant 15 jours. Pendant 15 jours, il faut les fournir. Après, ils passent un peu à autre chose. Parce que c'est vrai que dans le même restaurant, si vous mangez que ça, au moment, bon, voilà. Mais chez les grands chefs, c'est un petit peu différent. Eux, voilà, ils ont un truc à tenir et c'est vrai que. Alors peut-être c'est aussi à discuter avec eux, parce que la table ronde, moi j'aimerais bien la faire avec ces gens, hein, parce qu'à un moment donné, leur expliquer aussi que bah, pour avoir de la qualité, voilà, c'est pas non plus évident, et que bah, c'est bien aussi de varier dans les menus, parce que si vous mangez 12 mois sur 12 du gris du Vercors, aussi bon soit-il, je veux dire, hein, c'est pas le problème, aussi de façon détournée qu'on puisse le faire. Je pense que c'est aussi à eux de prendre conscience de ça et dire, ben voilà, pendant un mois, tac, ok, sur 3 éleveurs, on peut fournir. Mais voilà, il faut qu'on ait aussi des éleveurs.
Ce que vous dites, c'est vrai, parce que certains restaurants, on mange du veau toute l'année. Mais oui. Moi, je n'y vais pas parce qu'on mange du veau, que du veau, que du veau, que du veau.
Mais c'est voilà. Mais en fait, c'est une sécurité qui se met. Hein. C'est simplement une sécurité. Donc, ils prennent du veau toute l'année, donc ils vont demander des prix. Puisqu'ils en prennent toute l'année, donc ils vont dire à l'éleveur, il faut que tu me fasses un prix parce que j'en prends toute l'année. Parce que c'est ça, hein, que ça se passe. Et c'est là aussi notre stratégie commerciale, il faut qu'elle fonctionne aussi dans ce sens-là. Dire, attendez, moi je vous en fournis de temps en temps, après on fera appel à notre éleveur, mais c'est pas ma cam, c'est la sienne. Attention. Et c'est pour ça que moi quand je travaille avec les restos du coin, donc le food truck par exemple, là, bon, ça, lui il me dit, t'en as en ce moment, oui, bon, je peux le mettre à la carte, vas-y. Il en fait pendant une semaine. Voilà, après c'est l'autre resto, il va en faire pendant 15 jours, l'autre resto va en faire pendant 3 semaines parce qu'il y a plus de monde, et on recommence. Et hop. Ça fait que les gens ne mangent pas que ça. Et c'est bien. Moi je trouve que c'est très bien. Donc c'est vrai que les chefs étoilés, bien sûr qu'il faut qu'on les fournisse, mais c'est eux aussi, ils ne vont pas tous faire en même temps. Si vous avez 10 chefs étoilés, ils se mettent à faire de la grise 12 mois sur 12.
Ah, ils ont les cils plus longs, les chefs étoilés, donc c'est un peu délicat.
C'est plus délicat.
C'est pas les mêmes gens qui mangent tous les jours.
Non, on est d'accord. C'est pas les mêmes gens qui mangent tous les jours.
Non, mais ils ont des cycles, ouais, ils ont vraiment des cycles de 3 mois minimum. Voilà, ça doit monter à 6 mois.
Ouais.
C'est vrai que c'est plus délicat. Après, les autres restaurants semi-gastronomiques, quand même, ils changent généralement tous les mois.
Voilà.
Là, par contre, ça correspond.
Moi, j'ai géré là-dessus. C'est mieux à gérer. C'est mieux à gérer.
On en fournit tant par semaine sur un mois.
Voilà.
C'est le volume.
Et c'est plus facile pour nous, en fait.
Tout à fait.
Parce que, en termes d'abattage, en termes de livraison, enfin, bon, ouais, il y a tout un truc à prendre en compte aussi, hein.
Est-ce que c'est une bonne reproductrice?
Mais nous, on les aide pas pour reproduire. La reproduction, c'est Serge Blanchard qui s'en, Serge. Donc, Franck.
Ouais.
Ah, c'est Franck, c'est notre accouveur officiel, de l'association. Et quand on prend des poussins, c'est chez lui. Il y a que lui qui en fait. Oui. Voilà. C'est l'autre technicien.
Et c'est l'association en fait qui possède donc tout le matériel,
qui possède
les couvoirs, qui possède donc toutes les machines à incuber, tous les incubateurs, qui possède les poules reproductrices. Donc ça c'est l'association. Lui est notre prestataire de service, en fait. C'est lui qui fait tout le travail. Et donc, on pense en 2025 arriver à 25 ou 30 000 poussins vendus. Alors, c'est une goutte d'eau, hein.
Oui.
C'est une goutte d'eau, 25 poussins.
Ça paraît beaucoup, mais...
Oui, on s'en
C'est ce qui est vendu en un jour par des gros accouveurs, hein. Nous, c'est sur l'année. Voilà, on n'est pas dans la même cour, hein.
On n'est pas dans la même cour.
Mais pour nous, c'est important, on va avoir une progression. Enfin, nous,
garder la race.
Oui, oui.
Voilà, de conserver cette race et donc de financer la sauvegarde de la race en vendant les poussins aux professionnels.
Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que franchement, en plus, on est indépendant.
Oui.
C'est-à-dire que grippe aviaire, machin, nani, nana, nous, notre état sanitaire, il est sain, il est chez la même personne. Donc on est tranquille de ce côté-là. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont fait en Bretagne et compagnie à pousser les poulets. Parce que c'est des croisements qu'ils font, hein, donc ce qu'on appelle les grands parentaux, ça a été poussé au bulldozer parce que grippe aviaire.
Oui.
Et il s'en est tué des millions. Aujourd'hui, pourquoi la poule rousse, elle est si chère? C'est parce que des poussins, il n'y en a plus beaucoup, parce que les grands parentaux, ils sont dead.
Oui, c'est ce qui se passe, en fait, c'est que dans les grands
c'est des millions.
Il y a celui qui va élever le pousserin. Après, qui va le revendre à quelqu'un qui va le faire grandir. Et puis ensuite, ça sera celui qui va ramasser les œufs. Donc, tout ça, toute cette chaîne multiplie les risques sanitaires. Le nombre multiplie les risques sanitaires. Alors que nous, en fait, on part du couvoir de l'association qui va chez l'éleveur de l'association. Basta. Donc, on n'a pas de problème. Voilà. On gère tout le côté sanitaire.
Ça les agace un peu, d'ailleurs.
Voilà.
Ça commence à les agacer un peu.
Et moi, juste le message, c'est dire, si vous mangez, il y en a qui sont végétariens, hein, mais je pense que pour tous les flexitariens, il vaut mieux manger très peu de viande, mais manger de la bonne viande. Alors, pas que de la poule grise, hein, mais de la bonne viande, le veau, ça sera le veau d'un éleveur, etc.
Ah, oui.
Et là, je pense qu'on fera vivre, on continuera à faire vivre un peu nos éleveurs bien. Parce que l'objectif, c'est quand même qu'ils vivent bien. Et moi, je peux vous dire que les éleveurs, ils vivent certainement mieux que ceux qui ont des emprunts jusqu'à la cime de la tête. Et ils s'en sortent pas plus mal. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses.
Non, chose.
Voilà.
Après, c'est pas du tout le même fonctionnement. Mais, parce que, en effet, si on peut comparer à une personne qui font, des éleveurs qui font des poulets un peu en intégration, entre autres, c'est-à-dire des grands bâtiments. Rien que le bâtiment, c'est 100 000 euros.
Oui.
Je sais, parce que j'avais commencé à regarder au départ, j'ai vite été vacciné. Et c'était pas l'objectif. Et puis, même en termes de qualité, l'éleveur en intégration, il n'a aucun choix sur l'aliment.
Ah non, c'est imposé. Ouais.
Il n'a pas de choix sur le nombre de jours d'élevage. Il y a tout un. Alors après, c'est très bien, parce qu'il faut aussi faire du volume, il faut faire manger tout le monde. Attention, je ne suis pas contre tout ça. Mais en effet, le poulet gris du Vercors, on n'est pas du tout sur ça.
Ah non, voilà. Pas demandé.
Alors, chaque éleveur, on choisit son aliment, on choisit son parcours. Qu'est-ce qu'on veut sur le parcours? Parcours arboré, oui. On met du fruitier, oui, non. Voilà. Voilà. Chacun, c'est ça qui nous intéresse, quoi, je pense.
Bien sûr, c'est ça qui nous intéresse. Et ce que je dis, c'est un complément de revenu. Par exemple, quelqu'un qui veut faire du fruit, des pommiers, des poiriers, enfin ce que vous voulez, c'est un super complément. Parce qu'en fait, la poule, elle va manger les insectes qui nichent au pied des arbres. Et qui remonte au printemps pour aller bouffer les fruits, enfin, ces choses-là. Et la poule, elle est légume. Donc, c'est aussi intéressant. Au niveau de la biodiversité, c'est très intéressant.
On doit devoir laisser la place parce qu'il y a une autre.
J'ai juste une question. Est-ce qu'il y a une différence entre l'abattage en eau et l'eau, par exemple? C'est quoi les différences?
Alors, non, il n'y a pas de différence dans la chaîne d'abattage. Après, c'est.
C'est des campagnes où vous en amenez tant?
Voilà, ouais. Bah, moi, je fais entre 30 et 50 volailles semaine. Maintenant,
toutes les semaines,
quand j'en ai, ça dépend des lots. En tout cas, épuisement du lot, on va dire. Voilà. Et puis après, des fois, je les garde un poil plus parce que je sais que j'ai pas assez vendu la semaine d'avant, donc je vais sauter à un abattage, je le fais tous les 15 jours. Et ça dépend de comment ça se vend.
Sinon, c'est la même.
C'est la même durée d'abattage, c'est la même.
Voilà. Mais sinon, oui, c'est exactement la même chose. Hein. Après, je crois que le bio, ils le font passer en premier.
Oui, je pense, par contre, c'est peut-être l'ordre de passage au niveau
de l'abattoir. Oui, c'est l'ordre de passage. Mais ça, c'est les abattoirs.
Pas en même temps.
C'est les abattoirs qui gèrent.
Voilà, ça, c'est les abattoirs. C'est leur boulot.
C'est leur boulot.
C'est leur métier.
Tant que c'est intégré.
Intégré. Alors non, l'abattage, je le pose chez un autre abattoir qui est juste à côté, à 5 minutes de chez moi.
Parce que en fait, pour tout ce qui est bien-être animal, on avait dit aussi que l'abattage, on n'envoyait pas les poulets à plus de 2 heures.
Ouais.
Parce que le poulet qui va faire 5 heures de route avant d'être abattu, franchement, donc ça le stresse, etc. Donc il y a une distance maximum. On n'installera pas quelqu'un qui n'a pas de centre d'abattage près de chez lui. Voilà. On essaye vraiment d'être. De respecter et le bien-être animal. Surtout le bien-être animal.
Et par les pattes.
Et voilà.
Si on prend par les pattes, on passe dans un bain.
Oui.
Donc déjà par les pattes,
est-ce que la sauce est aussi des gens qui voudraient tout à l'heure trouver du terrain?
Ça les assomme, il y a quelqu'un qui prend un couteau.
Alors là, c'est vraiment le problème. C'est le problème, c'est que beaucoup de jeunes voudraient s'installer, mais ne trouvent pas de terrain. Donc, Dominique, il a attendu 3, 4, 5 ans. Combien tu as attendu avant d'avoir ton terrain? Ouais. Donc, en fait, nous, on n'est pas là-dessus, on ne peut pas intervenir. Par contre, les communes peuvent intervenir. Moi, je pense que se tourner vers sa commune.
Oui, mais elle est finie d'abord.
Et que vous avez certaines communes qui interdisent de planter un poulailler.
Ah oui, après il y a les distances.
On a la chance d'avoir une grande association nationale dont le siège est à Cré, qui s'appelle Terre de Liens, et qui est là pour ça.
Exactement.
Oui. Donc, et qui fait bien le boulot.
Oui, donc Terre de Liens permet à des éleveurs de trouver des repreneurs. Par exemple, ceux qui partent à la retraite, qui ne savent pas, qui ne trouvent pas de repreneurs. Il s'adresse à Terre de Liens. On a un exemple dans Royan, c'est la famille Lyotin, qui était là, à côté de l'aérodrome, qui n'avait personne pour reprendre. À Chandon, il n'avait personne pour reprendre. Nous, à la commune, on avait contacté Terre de Liens. Et ça a permis de mettre un groupe de jeunes.
Ils sont GAEC.
Ils sont GAEC.
Ouais.
Ils ont
des salariés.
Ce qu'on a du mal à imaginer, c'est qu'en réalité, les lois sont relativement bien foutues, mais ne sont jamais respectées.
C'est ça.
Et que si on fait respecter la loi qui a été créée depuis pas mal de temps par Napoléon, ça fonctionne.
Oui.
Un jeune qui cherche, il ne trouvera jamais. Non. Il faut passer par une asso, sinon ce n'est pas possible.
Oui, parce que
les lois sont relativement bien foutues et elles ne sont jamais utilisées.
C'est vrai.
Rarement utilisées.
À combien de semaines vous confiez les volailles à l'éleveur?
Un jour.
C'est des poussins
d'un jour. C'est vite.
Après,
il y a quel prix?
Comment?
Il y a quel prix?
Alors, le poussin à un jour, c'est 1,40€. Si vous voulez qu'il soit sexé, c'est-à-dire que Franck Blanchard est capable. Alors, moi, j'ai essayé de sexer. Il y avait 50% de poules et 50% de coq à la fin. Autant dire que j'avais tout faux. Mais lui, sexe. Et si vous voulez que des poulettes, vous aurez que des poulettes. Et les poulettes, elles sont à 2,10€. Mais du tout venant, c'est-à-dire poulette ou coq, c'est 1,40€.
Voilà.
Et les prendre un peu plus âgés, c'est pas...
Il faut prendre chez un éleveur.
Après, il faut se mettre d'accord avec un éleveur.
Il faut prendre chez un éleveur qui va avoir, mettons, 300 poussins. Il va les aider, comme là, moi, j'ai fait pour vendre des poulettes.
Parce que c'est pas la même chose un jour et 6
semaines. Ah ben non, ça mange entre-temps.
Oui, mais alors, il y a des pertes.
Oui, oui. Toujours. Oh, très peu. Hein.
Oh, mais il y en a toujours un peu, mais voilà. Oui, après, il y a...
Et puis, c'est un peu
chaque lot est différent.
Chaque éleveur a son mode de fonctionnement économique, on va dire. Moi, aujourd'hui, ma poulette, elle va sortir à tel prix, et lui, elle va sortir un peu plus bas ou un peu plus haut. Enfin, voilà, ça, c'est...
Mais c'est vrai, oui, quand on n'en veut pas beaucoup, on peut se mettre à... C'est l'intérêt d'être en association.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'on se connaît tous.
Ben voilà.
Et l'éleveur qui dit, moi, j'ai pas le temps, je peux pas les élever, mais je les prendrai 6 semaines. On se tourne vers un éleveur qui lui dit, moi, j'ai de la place, voilà. Ben, je te les prends et tu viendras les chercher à 6 semaines.
Voilà.
Puis c'est pas le même climat en haut et en bas.
Ah ben non, je suis bien au courant.
Bon, on va se faire jeter.
Non, voilà. Non, pas tout à fait une infinité.
Bon.
Mais on peut se mettre dehors aussi, voilà. C'est pas un problème. Ouais.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Alors, tous ceux qui voudraient avoir vraiment techniquement des informations, ça c'est Franck Blanchard. Donc, on vous donnera ses coordonnées si vous voulez.
Il va être content.
Et ben, oui.
Tu dirais que c'est toi qui l'as dit. Hein.
Et puis, ben, tous les autres, voilà, en tant qu'amateurs, nous, on vous accueille à l'association. Si vous acceptez d'avoir un parquet de poules, ben alors là, pure race, on cherche à diversifier, à en mettre un petit peu partout au cas où il arrive quelque chose, pour conserver toutes nos familles et pouvoir continuer à les sauvegarder les années
parce
prochaines.
Parce que les renards du Vercors ne sont pas aussi méchants que les renards du Royaume.
C'est pareil, c'est pas.
Il y a les plats noirs.
Par contre, ouais, ce qu'on va demander aux éleveurs qui vont faire de la race pure, c'est d'une certaine rigueur.
Oui.
Parce que, voilà, on a eu quelques éleveurs indélicats qui nous ont foutu un peu la merde, entre guillemets, où c'était le coq de la voisine qui a dû passer par-dessus la clôture et se taper des grises. Et quand on a pris les œufs à couver, voilà, et c'est pour ça qu'à des moments donnés, on a des poussins qui sortent du... voilà, ça va pas. Alors que quand même, on avait fait un travail de sélection qui était pas mal. C'est quand même parti une dizaine d'années sur... 10 ans à peu près, hein, Méchane, dans l'Ain, qui est le centre de sélection de toutes les races de France. Bon, c'est pour ça qu'on demande quand même une certaine rigueur, que ce soit bien protégé. On se déplacera s'il faut pour venir voir, parce que...
Donner des conseils, mais tout à fait.
Parce que justement, il faut quand même... on va demander un peu du résultat, entre guillemets. C'est-à-dire que pendant une période, il va falloir qu'on vous prélèvera les œufs pour faire les futurs reproducteurs qui seront croisés pour faire la F1. Mais le reste du temps, c'est pour vous.
Voilà.
Ça correspond à une période. Il va faire deux fois dans l'année ou un truc comme ça, et il va mettre, je ne sais pas combien il met, 400, 500, 600, 1000 œufs à couver, mais c'est pour ça qu'il est sur des parquets de personnes. Et c'est pour ça qu'il faut que le boulot soit rigoureux. Parce que lui, après, derrière, il sait que tel œuf, c'était tel éleveur, donc ça donne telle famille. Tel œuf, c'était tel éleveur, ça donne une autre famille. Et ensuite, telle famille, on va choisir les plus jolies. Tac, tac, tac. Ok, je vais prendre ça, je vais croiser avec ça. On va refaire une famille qu'on va reconfier à notre éleveur. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit. Voilà. Mais c'est intéressant pour quelqu'un qui veut une dizaine de poules. On ne demande pas d'en prendre 2000, hein. Même 5, on s'en fout. Mais par contre, je préfère quelqu'un qui en prend 5 et qui est rigoureux, quelqu'un qui en a 20 et qui va faire de la merde.
Et puis qui va mettre un coq rouge parce qu'il est bien joli. Et ça fait déjà 2 années qu'on bataille pour éliminer ce que l'éleveur a mis. Parce qu'il nous sort encore des poussins qui ne sont pas...
Qui vont pas.
La génétique.
C'est la rigueur.
Parce que même quand on ramasse les œufs, il faut que les œufs qu'il y a une fois propre. Pour les mettre en couveuse, même si c'est bien obligatoire.
Oui, aussi, voilà, exactement.
Donc, c'est-à-dire que votre poulailler, quand même, et ben, il faut qu'il y ait de l'entretenir, il faut que ça soit, il faut qu'il y ait de la paille.
Voilà.
Mais ça se fait, c'est pas difficile.
Mais c'est bon pour n'importe quel éleveur, parce que vous avez acheté 3 poules. Si vous avez des œufs sales, ça va être compliqué pour m'en les manger après. Donc, il y a une rigueur, voilà. Pour tout élevage, il faut une rigueur, voilà.
Et combien de temps tu laisses le coq quand tu fais tes sélections là, chez les gens
Alors, sachant que une poule peut conserver des spermatozoïdes à l'intérieur de son corps pendant à peu près 21 jours. Donc, si on a eu un autre coq avant, il faut attendre 21 jours pour qu'elle soit pure, on va dire. pour pouvoir émettre le coq.
Ouais. Non, mais c'est pour ça que c'est
et
important.
Après, tu laisses combien de temps avec les poules
Il peut rester.
Non, mais surtout pas, parce que j'ai des voisins qui sont très très pénibles. Ça s'appelle mon fils et...
le coq, une fois qu'il a sauté sur la poule, en principe, toute sa chaîne d'œufs est bonne. Donc, au bout de 3 jours, sauf s'il y a une poule qui ne lui plaît pas, il aurait sauté sur toutes les poules.
Voilà.
D'accord.
Voilà. Bah, ils sont chauds bouillants, les mecs. Hein.
Chaud bouillants.
Ah, ils sont chauds bouillants. Hein.
Ah, bah, pour 10,
elles ont pas, elles n'ont pas beau temps. Hein. Ils sont même chiants, quoi.
Mais il y a des poules qui se laissent faire. Il y a des poules qui se laissent pas faire.
Ça, c'est comme les femmes. Non, c'est grossier ce que j'ai dit.
En tous les cas, merci. Merci beaucoup.
Mais attention,
et après, l'éleveur, il les garde combien de temps après la poule?